que vous avez vu le film Mission ? Non ? Qui a vu ça ? Au moins, il y a trois personnes cultivées. Non, je plaisante, évidemment, il y a tellement de films qu'on ne peut pas tout voir. Mais dans le film de Mission, nous retrouvons l'acteur De Niro, qui était jeune et beau. Non. Qui joue le rôle d'un trafiquant d'esclaves. Et si je me souviens bien, ça se passe, je ne sais pas si c'est dans les années 1400, 1500 ou dans ce coin-là. Et il se trouve en Amérique centrale. Enfin, tous les détails, je ne me souviens pas exactement. Mais c'est un trafiquant d'esclaves qui revient d'une razzia où ils ont attrapé des gens d'une tribu et qui se retrouve en conflit avec son frère et qui finalement tue son frère. Et en prison, De Niro rencontre un prêtre jésuite et sa vie est complètement transformée. Et il décide de partir avec les jésuites qui voulaient envoyer des missionnaires dans la tribu de laquelle, lui, il avait obtenu des esclaves. Et il décide de partir avec les missionnaires. Lui, l'esclavagiste, qui décide de retourner dans cette tribu. Mais non plus comme voleur, mais plutôt comme... aide avec les jésuites, en fait, il est devenu prêtre jésuite. Et on voit toutes ces belles prises de vue quand il grimpe le long de la cascade, ça c'est impressionnant, là, avec les jésuites. Et lui, cet ancien trafiquant d'esclaves, tire derrière lui un fardeau. Un petit peu comme Chrétien dans le voyage du pèlerin. Ce fardeau est lourd. Et ce fardeau est composé de toutes les armes qu'il utilisait quand il était trafiquant d'esclaves, quand il était soldat. Et ces armes sont empaquetées dans un grand filet, puis il tire ça. Puis il grimpe la falaise avec ça. Et quand les jésuites ont pitié de lui et veulent l'aider, il refuse toute aide. Et du haut de la falaise, les gens de la tribu les regardent. Ils regardent grimper, ils regardent arriver jusqu'en haut. Et lorsqu'ils arrivent jusqu'en haut, les gens de la tribu sont là, tout autour d'eux, et on entend un ordre qui est donné par un des chefs de la tribu, et quelqu'un se précipite vers le trafiquant d'esclaves avec un couteau à la main. Et au lieu de lui trancher la gorge, il coupe la corde à laquelle était attaché tout ce fameux paquet qu'il traînait derrière lui, et avec lequel il avait monté le long de cette falaise, le long des chutes. Et on voit tout son paquet qui symbolise son ancienne vie, qui dégringole dans le vide, il s'en trouve débarrassé. Et là, on voit toute la joie d'un homme qui pleure face à aux gens de la tribu, et on voit toute la joie des gens de la tribu devant l'attitude de cet ancien trafiquant d'esclaves repentant. C'est vraiment une très très belle image de ce que c'est que la repentance, de ce que c'est que le poids du péché que l'on traîne derrière nous, et de ce que c'est que d'être libéré par ceux que nous avons nous-mêmes offensés, parce que dans la Bible, nous avons offensé Dieu. Et Dieu est là pour nous libérer. Dieu est là pour couper la corde de tout ce fardeau qui nous retient à cause de nos péchés. Et dans le texte que nous allons voir ce matin, eh bien nous avons aussi une description d'un pécheur qui implore le pardon de Dieu. Et vous connaissez tous le contexte de ce psaume 51, psaume classique, qui est très bien connu dans les églises chrétiennes. Un psaume qui a été écrit après le péché de David. Vous vous souvenez de cet épisode Alors que ses propres soldats lui ont dit, écoute, il vaudrait mieux que tu restes à la maison que d'aller à la guerre. Mais quand tu restes à la maison au lieu d'aller à la guerre et que tu es désœuvré, et que tu te promènes sur la terrasse de ton palais, puis que tu vois une belle femme en contrebas qui prend son bain, eh bien, le roi est tombé dans le piège. Il a fait venir Bathsheba, il a commis l'adultère avec elle, vous vous souvenez de l'histoire. Mais non seulement il a commis l'adultère, mais ensuite il a essayé de cacher son péché, de camoufler son péché. Et il a fait venir le mari de cette femme, Uri, du champ de bataille. Et alors que Uri rentre à la maison, rencontre le roi, et le roi le renvoie pour qu'il aille chez lui, pour qu'elle aille coucher avec Bathsheba, ça arrangerait bien ses affaires. Bathsheba est devenue enceinte, on le sait. Au moins, si ça pouvait passer sous le couvert de son mari, ça arrangerait bien les affaires du roi. Mais voilà que Uri, c'est un homme d'élite, fidèle à son roi, et fidèle aussi à ses propres soldats sur le champ de bataille, solidaire avec eux. Et Uri ne veut pas profiter d'avantage quelconque. Et il dit au roi David, non, je ne rentrerai pas chez moi alors que les autres sont sur le champ de bataille, moi je vais rester là. Et David essaye de le saouler pour qu'il puisse quand même rentrer chez lui, sans aucune réussite. Et David persévère. C'est pas dans ce contexte qu'on utilise cette expression d'habitude dans la vie chrétienne, mais David persévère dans son péché en quelque sorte, et il donne à Uri sa propre déclaration de mort sous la forme d'un pli fermé, cacheté, adressé au chef de l'armée. Et dans ce pli, il est indiqué que lorsque Joab allait attaquer la ville qu'ils étaient en train d'assiéger, eh bien, David demande à Joab de placer Uri, donc le mari de Bathsheba, au plus fort du combat, à l'endroit de la muraille la mieux défendue. Et il dit à son chef de l'armée, à un moment donné, tu donneras l'ordre aux soldats de se retirer d'un seul coup rapidement, comme ça Uri va être coincé là, puis il va mourir. En fait, David a imaginé un guet-apens pour que Uri puisse mourir. Évidemment, après la mort de Uri, David prend Bathsheba comme femme. Et ça a duré, cet épisode a été suivi de plusieurs mois d'endurcissement de la part de David. David qui n'a pas voulu reconnaître son péché. Et si ce n'était de l'intervention de Dieu qui a envoyé son prophète Nathan, peut-être que David aurait persévéré dans sa faute encore plus longtemps. Et vous connaissez tous la façon dont Nathan est venu interpeller David, est venu interpeller le roi, celui qui est en autorité. Le tact avec lequel il a interpellé le roi. L'habileté avec laquelle il a en quelque sorte poussé David à reconnaître son péché. Ça, c'est un exemple d'intervention face à l'autorité. C'est un exemple de courage aussi, mais un exemple de respect, un exemple pédagogique d'intervention auprès du roi en lui racontant cette fameuse parabole de ce riche qui avait plein de moutons et qui reçoit la visite de quelqu'un et qui décide d'aller prendre la brebis de cet homme pauvre, brebis qui était pour cet homme comme un animal domestique que tu gardes à la maison. Il dormait avec sa brebis pour lui faire chaud la nuit. C'était son pet, comme on dit ici, son animal domestique, en quelque sorte. Et David, outré de voir l'attitude de ce riche, pose la sentence qui se retourne contre lui. Cet homme mérite la mort. Et Nathan de lui dire, cet homme, c'est toi. Et ce psaume a été écrit après, donc dans le contexte que je viens de vous décrire, et ce psaume a été écrit pour exprimer toute la repentance de David lorsqu'il a pris conscience de son péché. C'est long parfois de prendre conscience de notre péché. C'est compliqué la repentance. Et si ce n'était pas de Dieu qui vient briser notre cœur, nous resterions dans notre péché. C'est Dieu qui vient toucher notre cœur pour nous amener à la repentance. Et heureusement que Dieu, dans son amour, connaît la manière de venir nous chercher, de venir nous toucher, de venir nous parler pour que nous puissions véritablement passer par la repentance. Alors, je voudrais regarder avec vous ce psaume que j'ai intitulé de façon pas très créative « David implore le pardon divin », mais qui reflète tout de même le contenu de ce passage. Vous avez lu le psaume 32 ce matin, hein, qui nous prépare aussi à ce genre de passage. Ce sont des psaumes de repentance. Ça fait partie de cette catégorie-là, des psaumes de pénitence, de repentance, que nous retrouvons dans le psautier. Alors, je vais vous inviter à lire avec moi, à suivre dans la lecture. Et nous allons faire la lecture de ce psaume en trois parties, c'est-à-dire les trois parties que j'ai détectées dans le psaume. Et à chaque fois, nous allons méditer sur chacune des parties. Nous allons le faire donc au fur et à mesure. D'accord ? Alors, à partir du verset 3, et je lis dans la version de la Bible du Semeur ce matin. « Aie pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon. Efface mes transgressions. Tu es si compatissant. » On a encore là un parallélisme synonymique dans les deux parties du verset. David dit pratiquement la même chose, là. Il implore la pitié de Dieu. « Lave-moi de mon péché, purifie-moi de ma faute. » Là encore, un parallélisme synonymique qui est encore plus précis que le précédent. Verset 5, « Car je reconnais mes torts, la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Contre toi seul, j'ai péché. J'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence. Tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis qu'en ma mère j'ai été conçu, le péché est attaché à moi. Mais tu veux que la sincérité demeure au fond de mon être. Tu m'enseignes la sagesse au plus profond de moi. » Alors j'ai ramassé un petit peu le contenu de ces quelques versets sous le titre suivant, « Trois éléments fondamentaux ». Difficile parfois de faire des plans. Les textes sont tellement... semble tellement varié, c'est difficile de pouvoir ramasser ça dans des plans. Donc, ce premier grand titre ramasse trois éléments fondamentaux dans la repentance. Ensuite, nous allons regarder, nous lirons tout à l'heure, les versets 9 à 14. Les versets 9 à 14 qui peuvent se regrouper sous le titre suivant, les motivations de la démarche de David. Vous savez, il y a ce qu'on appelle la vraie et la fausse repentance. Et dans l'Ancien Testament, on a un exemple superbe dans Samuel de la vraie et de la fausse repentance. C'est le peuple pêche contre Dieu, Dieu leur envoie les Philistins, et puis le peuple... le peuple, il offre des sacrifices à Dieu, il fait venir l'arche de l'Alliance, il sonne de la trompette, puis il semble que le peuple est prêt, l'Éternel est avec nous, tu sais, puis ils sont prêts à se repentir et puis à aller se battre contre les Philistins. Ils font tellement de bruit que les Philistins l'entendent et se disent « Cette fois-ci, on va y goûter. » La dernière fois, c'est nous qu'on a gagné, mais cette fois-ci, on va y goûter. Les Philistins ont peur, les Philistins viennent, puis ils gagnent. Ah. Pourtant, il semble qu'il se soit repenti. Mais quelques instants, quelques années plus tard, ou quelques pages plus tard, on se retrouve dans une même situation où le peuple fait face aux Philistins. Mais là, le peuple, il passe par une vraie repentance. Ce n'est pas une repentance religieuse, où le fait de poser des actes religieux reflète la repentance. En fait, ce n'est pas vrai. Les actes religieux ne reflètent pas nécessairement la repentance. Ils avaient fait venir l'arche, tu sais. Au sein de l'armée, là, puis en se disant, ah, si l'arche est là, ça va marcher. T'sais. Mais ça, c'est une repentance superficielle. Mais plus tard, ils ont jeûné devant Dieu, ils ont pleuré devant Dieu. Ça, c'est une vraie repentance. Alors, il y a ce qu'on appelle dans la Bible la vraie et la fausse repentance. Alors, j'espère que ce que nous expérimentons dans notre vie, c'est la vraie, l'authentique repentance, comme c'est le cas ici dans le texte qui est devant nous, et c'est important de regarder les éléments fondamentaux d'une repentance pour voir si dans ma repentance est vraiment sincère, Et c'est important de remarquer aussi les motivations de la repentance. Est-ce que je me repens comme Saül, qui dit au prophète, oh, reste avec moi parce que je sais, là tu viens de prononcer un jugement sur moi, mais reste avec moi parce que j'ai besoin de ton appui pour mon autorité en tant que roi. Tu sais, ça c'est une fausse repentance. Tu te repens par intérêt. Tu veux garder ton leadership. Tu veux que ton armée te suive. Donc tu exprimes quelques regrets envers Samuel, mais ça c'est pas la vraie repentance. Et en fait, on va regarder aussi, à la fin du chapitre 51 du psaume, les conséquences du pardon. Ça, les conséquences du pardon, c'est remarquable. Dans ce film de mission, on voit Robert De Niro en larmes, dont on coupe la corde qui le retient tout son fardeau, et on voit au travers de ses larmes toute la lumière du pardon que ces indigènes, ces membres de cette tribu-là venaient lui accorder. C'est remarquable comme scène. En fait, dans ce film de mission, on pourrait le regarder et examiner le thème du discipulat. Qu'est-ce que ça veut dire de suivre Jésus? Et qu'est-ce que ça voulait dire pour cet ancien trafiquant d'esclaves qui est venu servir la tribu et jusqu'où il est allé pour servir la tribu? Je vous dis pas le punch. En fait, le punch est assez dramatique. En fait, le punch peut tirer de n'importe qui d'entre nous des larmes à la fin du film. Donc, je ne fais pas de publicité pour le film. Mais en tout cas, c'est un film que j'ai beaucoup aimé. Donc, la première partie, nous venons de la lire. Trois éléments fondamentaux dans la repentance. C'est tout d'abord au verset 3. Au verset 3. Le cri de David. C'est un cri. Aie pitié de moi. Oh, combien le Seigneur aime répondre à ceux qui crient à lui. Et même cet aveugle sur le chemin de Jéricho qui crie, fils de David, aie pitié de moi. À quel moment de notre vie nous comprenons réellement l'ampleur de notre propre péché ? Au point où nous crions à Dieu pour obtenir son pardon. Le verset 3 et 4 mentionnent donc ce besoin de pardon. « Et pitié de moi, ô Dieu, toi qui es si bon, efface mes transgressions, lave-moi, purifie-moi. » Qu'est-ce que c'est que le pardon ? Puis là, je suis toujours tenté, quand je dis le mot « pardon », de prendre la tangente. Parce qu'aujourd'hui, dans nos milieux évangéliques, nous sommes extrêmement influencés par la définition du pardon tel qu'il est conçu dans notre société contemporaine et tel qu'il est parfois présenté à travers des ouvrages de psychologie. Souvent pour nous, aujourd'hui, le pardon, c'est un geste qui consiste à se faire du bien. Pardonne. Parce qu'en pardonnant, tu vas te libérer de la colère. Pardonne, parce qu'en pardonnant, tu vas te libérer de ton amertume. Mais dans la Bible, l'accent n'est pas mis sur l'offensé qui se fait du bien en pardonnant. Dans la Bible, l'accent est mis sur l'offensé qui libère l'offenseur de la dette. Et aujourd'hui, dans notre société, ce qui est important, c'est que tu te sentes bien. Donc, pardonne pour bien te sentir. Est-ce que vous pensez que Dieu pardonne pour bien se sentir ? Dans le Nouveau Testament, on nous dit qu'il faut pardonner comme Dieu a pardonné. Alors, si je te pardonne comme Dieu a pardonné, eh bien, je pardonne parce que moi, en tant qu'offensé, moi, en tant que victime, moi, en tant que personne qui était blessée, je pardonne pour le bien de celui qui m'a fait du tort. Pour libérer l'offenseur de la dette qu'il a contractée envers moi. C'est ça le pardon dans la Bible. Ce n'est pas la même chose que le pardon dont on parle dans notre société. C'est un pardon qui va beaucoup plus loin. Et ça, c'est ce genre de pardon que David réclame de la part de Dieu. David est l'offenseur. David a contracté une dette, il est l'offenseur. Ce trafiquant d'esclaves avait contracté une dette envers cette tribu, dont il venait voler les hommes et les femmes. Et cette tribu a compris que le pardon consiste à libérer l'offenseur, à celui qui nous fait du mal, à celui qui nous fait pleurer, à celui qui a provoqué une meurtrissure dans notre cœur. Le pardon, c'est libérer celui qui a contracté une dette. Et nous avons contracté une dette envers Dieu. Et nous avons besoin d'une intervention pour que cette dette soit effacée. Et qui d'autre que Dieu est le mieux placé pour effacer notre propre dette? Et c'est ce que David comprend. Et c'est pour ça qu'il crie à Dieu. Il dit à Dieu, Dieu, ton pardon, là, c'est un geste incompréhensible. En fait, dans notre société, c'est incompréhensible que la victime libère l'offenseur. Mais par contre, c'est compréhensible que la victime se fasse du bien. Parce qu'elle veut pardonner pour se faire du bien. Et c'est pour ça qu'on arrive à toutes sortes de conséquences un petit peu aberrantes, là, qui consistent à dire que le pardon, c'est un acte que tu fais juste dans ton cœur. D'après la Bible, le pardon, ce n'est pas un acte que tu fais juste dans ton cœur. D'après la Bible, le pardon, c'est un acte juridique entre deux personnes. Et cet acte juridique a lieu quand l'offensé efface la dette de l'offenseur. Oh, bien sûr, pour faire cela, l'offensé doit régler dans son cœur pas mal de choses. L'offensé doit remettre la vengeance à Dieu. Autrement, tu peux pas effacer la dette de celui qui t'a fait du tort. T'sais. Si ton cœur n'a pas déjà été travaillé, si tu n'as pas accepté de remettre la vengeance entre les mains de Dieu, si tu n'as pas accepté de laisser venir dans ton cœur blessé l'amour de Dieu pour celui qui t'a blessé. Hein, Romain nous dit, là, il faut que tu rendes le bien au mal. Tu ne peux pas pardonner si dans ton cœur il n'y a pas eu un travail qui fait que tu es prêt à faire du bien envers celui qui t'a fait du mal. Mais bibliquement parlant, théologiquement parlant, le pardon, c'est vraiment effacer la dette de l'offenseur. C'est pour ça que c'est inhumain, le pardon. C'est pour ça que pour pardonner, il faut d'abord avoir été pardonné par Dieu. Et quand tu as été pardonné par Dieu, tu comprends que Dieu te demande d'effacer la dette de celui qui t'a fait mal, de l'offenseur. J'ai vu récemment sur Internet un témoignage extraordinaire. Témoignage d'un homme qui était dans des gangs, qui s'est converti et qui avait même, avant sa conversion, impliqué ses propres enfants dans le trafic de drogue. Et cet homme-là s'est converti et un jour, il parle de l'évangile à son fils, il supplie son fils d'accepter le Seigneur dans sa vie. Son fils refuse, il quitte la maison et se fait tuer par un gars de notre gang. Incroyable, n'est-ce pas? Et ce type-là, le meurtrier, s'est fait arrêter. Il a passé 20 ans en prison. Et à sa sortie de prison, il décide d'aller dans un groupe chrétien, parce qu'il était devenu chrétien en prison. Après 10 ans, il est devenu chrétien. Et il décide de fréquenter un groupe chrétien qui s'occupe des anciens prisonniers, etc. Et puis, il va donner son témoignage. Et là, dans ce groupe chrétien, il rencontre le père de celui qu'il avait assassiné. Et puis, ça faisait 10 ans que ce prisonnier priait pour pouvoir rencontrer le père de celui qu'il avait assassiné, parce qu'il était devenu chrétien. Et le père qui accepte de le rencontrer, en fait, était devenu chrétien, le père aussi, puis en fait, il est devenu pasteur. Et là, on voit la rencontre des deux. Avec le meurtrier, le père, son épouse et son autre fils. Et on assiste vraiment à ce que c'est qu'un pardon biblique. Où le père pardonne cet homme-là et où le père décide de bénir le meurtrier de son fils. et qui lui dit « Tu es maintenant pour moi comme un fils ». Vous vous rendez compte ce que c'est que le pardon de Dieu ? Et quand on lui pose la question « Comment tu as fait pour pardonner ?» cet homme a dit « Si Dieu m'a pardonné, si Dieu a effacé ma dette, comment moi, qui suis maintenant une victime, comment est-ce que je pourrais ne pas effacer la dette de l'offenseur ?» Et c'est vers ce Dieu-là que David vient. Et c'est vers ce Dieu-là que David crie. Et c'est vers ce Dieu-là que David vient pour implorer la grâce de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la grâce ? C'est une faveur que tu ne mérites pas. Tu ne peux pas demander le pardon de Dieu sur une autre base, sur un autre fondement que la grâce de Dieu. Et c'est justement parce que tu ne la mérites pas, cette grâce, que tu cries pour l'avoir. Que tu implores Dieu pour qu'il te la donne. Parce que tu sais dans le fond qu'il n'y a rien, aucune raison pour laquelle tu pourrais obtenir ce pardon, si ce n'est la grandeur de la miséricorde de Dieu. Et David l'a compris. Et c'est pour ça qu'il crie à Dieu dans ce verset 3 et 4. Verset 5 à 7. Le verset 5 à 7, c'est la reconnaissance des torts. Dans une vraie repentance, il y a une reconnaissance des torts. Je crie, je t'implore, Seigneur, parce que je reconnais mes torts. C'est simple comme phrase. C'est tellement dur parfois à sortir. Hein ? Cet orgueil-là, qui construit un mur épais, un mur tellement haut, qui semble nous empêcher de simplement reconnaître nos torts devant Dieu ou devant nos frères et sœurs. C'est dur, hein, des fois. Elle nous dit, non seulement je reconnais mes torts, mais il nous dit, le psaume nous dit que David est accablé par ses torts. Facile de dire, oui, je te demande pardon, je reconnais mes torts. Mais sans être véritablement accablé. Tu sais, on utilise parfois des expressions pour essayer de régler l'affaire, là. Mais le cœur n'y est pas nécessairement. Tu sais. Alors, tu peux dire, oui, j'ai tort, là, je t'ai fait du mal, excuse-moi. Mais est-ce que tu comprends vraiment le mal que tu as fait ? Est-ce que le mal que tu as fait t'accable ? Et le mal que ce trafiquant d'esclaves avait fait l'accablait tellement, tellement, qu'il avait un paquet derrière lui qui traînait, tu sais, et qui était lourd à tirer, en particulier lorsqu'il a grimpé la falaise. Alors la pensée de mon péché me poursuit sans cesse. Et au verset 6, le texte nous précise que non seulement il est accablé par ses fautes, mais que David reconnaît, confesse, admet, en fin de compte, que le péché, il a été commis contre Dieu. Alors ce qui nous préoccupe parfois, c'est l'expression « contre toi seul, j'ai péché ». Parce que David comprend qu'il a péché contre Uri. Moi, je crois qu'il a péché contre. Je crois qu'il le comprend qu'il a péché contre Uri. Mais je crois que quand il dit « j'ai péché contre toi seul », ça veut dire que ultimement, tout péché, c'est un péché qui est dirigé contre Dieu. Quels que soient les chemins que notre péché prend. Et David confesse sa faute devant Dieu et il dit, j'ai commis ce qui est mal à tes yeux. Et il reconnaît même au verset 7 que sa nature est une nature pécheresse. C'est-à-dire qu'en théologie, on appelle ça la dépravation totale. Vous savez que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Hein. Et même après le péché, l'image de Dieu, elle est altérée, mais elle est toujours dans l'être humain. C'est pour ça que dans Genèse, Dieu dit que l'homme ne doit pas commettre le meurtre. Parce que chaque être humain, quelle que soit sa race, sa couleur, etc., est créé à l'image de Dieu. L'être humain a une valeur parce qu'il est créé à l'image de Dieu, même si l'être humain a péché. Et ça doit être le fondement de notre éthique chrétienne, qui nous permet de répondre à toutes sortes de questions aujourd'hui. Que ce soit l'avortement, que ce soit l'euthanasie, ou les, vous savez, On appelle ça les soins de fin de vie. Non, comment on appelle ça? C'est ouais, l'assiste, hein? L'aide médicale à mourir, tous ces sujets-là qui nous préoccupent. La question de l'homosexualité, la question des transgenres, d'accord? Toutes ces questions-là d'ordre éthique, dans notre vision chrétienne du monde, toute notre réflexion doit se bâtir sur ce fondement que l'être humain est créé à l'image de Dieu, et même après la chute, l'image de Dieu, même si elle est altérée, elle reste dans l'être humain. Et ici, David reconnaît, au verset 7, sa dépravation totale. C'est-à-dire, je suis depuis ma naissance marqué du péché. Depuis quand ma mère, j'ai été conçu, le péché est attaché en moi. Alors David ne dit pas ça pour se sauver de toute responsabilité face à son péché, absolument pas. David dit ceci pour reconnaître sa nature pécheresse. Et sa nature étant pécheresse, il a d'autant plus besoin de l'intervention de Dieu. Est-ce que le léopard peut effacer les taches de sa peau? Le prophète dit non. Est-ce qu'un être humain peut changer son cœur de pierre en cœur de chair? L'Ancien Testament nous dit non. C'est Dieu qui vient opérer en nous ce qu'on appelle une régénération. Ce n'est pas juste une conversion, là. C'est-à-dire, on parle de conversion aujourd'hui, de converti du christianisme à l'islam ou de l'islam ou à une autre religion. Non, non. L'œuvre que fait Dieu en nous, la Bible l'a décrit par toutes sortes d'expressions, notamment la conversion, la nouvelle naissance, mais aussi la régénération. Qu'est-ce que ça veut dire, tu régénères? Ça veut dire que quelque chose est mort et tu donnes la vie. Ce n'est pas juste la conversion seule. C'est tellement riche la nouvelle vie que Dieu nous donne que dans la Bible, il y a plusieurs expressions qui sont utilisées pour nous décrire les différents aspects de cette nouvelle vie. T'es. Alors, David reconnaît sa nature pécheresse et il reconnaît qu'il a besoin d'une intervention de Dieu pour pouvoir être pardonné. Troisième élément fondamental quand on parle du pardon, ce n'est pas seulement la présence du cri de David, ce n'est pas seulement la présence des torts que David reconnaît, mais c'est aussi l'acceptation de la justice divine. Verset 6. Voilà pourquoi, la deuxième partie du verset, voilà pourquoi tu es juste quand tu émets ta sentence, tu es irréprochable quand tu rends ton jugement. Vous savez, parfois, quand on confesse notre faute, on essaye de négocier la justice face à nos fautes. On essaie de s'en tirer un peu. Là, tu sais. Si on pouvait négocier, là, puis que ça soit moins difficile, les conséquences de nos actes. Je ne me fais pas souvent arrêter quand je conduis. Mes enfants trouvent que je conduis trop lentement. Je suis trop vieux. Mais ça m'est arrivé de me faire arrêter par la police et que j'ai une contravention. Et souvent, nos contraventions, on trouve que c'est bête. Hein. On a fait une bêtise, là, on ne voulait pas vraiment faire ça. Puis notre tendance est un petit peu de négocier avec la police. « Ouais, mais tu sais, d'habitude, je conduis bien, là, tu sais, puis j'ai jamais brûlé un stop jusqu'à aujourd'hui, tu sais, puis ce n'était pas mon intention, tu sais. » En tout cas, si vous êtes une femme, parfois, vous pouvez arriver à faire fléchir des gars. À notre église, quand on se rend à l'église et qu'on vient du Nord, on prend le boulevard Laval à partir de Saint-Martin, et puis on ne peut pas tourner directement pour rentrer dans le parking de l'église. Il faut qu'on dépasse l'église, puis qu'on peut faire un demi-tour. Mais là, tu as un panneau qui te dit que le demi-tour est interdit entre telle et telle heure le matin et telle heure le soir. Alors le soir, je ne sais plus, c'est entre 4h et 6h. Et puis à un moment donné, on a une activité spéciale à l'église, puis d'habitude, les gens ils viennent le samedi, le dimanche. Puis le samedi, dimanche, tu n'as pas de restriction, tout le monde tourne. Tu sais? Et là, on a eu deux, trois personnes de l'église qui sont venues, et entre 4h et 6h, puis ils ont tourné alors qu'ils n'avaient pas le droit pour faire le... T'sais. Et là, il y en a deux ou trois de l'église qui sont fait attraper. Et c'est dommage parce que l'offrande a diminué le dimanche suivant. mais je vous garantis que notre sœur, qui s'appelle Mélodie, qui est passée, elle a réussi à attendrir le cœur du policier. Et les deux autres fleurs qui sont fait attraper, ils n'ont pas réussi à attendrir le cœur du policier. T'sais. Mais toujours est-il, dans certaines situations, on essaie d'argumenter. Hein. par rapport aux connaissances, aux conséquences de notre péché, au prix à payer suite à notre péché. Et ici, David, il dit, tu es juste et tu es irréprochable. Vous savez que la conséquence du péché de David, ça a été la mort de l'enfant qui est né. Hein. Et David, il a imploré Dieu jusqu'à la fin, en se disant peut-être que Dieu va changer d'idée. Et Dieu n'a pas changé d'idée, l'enfant est mort. Et David reconnaît que Dieu est juste et qu'il est irréprochable. Parfois, lorsque nous péchons, là, ça nous entraîne. Il y a des péchés qui nous entraînent dans des conséquences qui vont perdurer pendant des années. C'est si par exemple une jeune femme tombe enceinte hors mariage, puis qu'elle se retrouve toute seule avec son bébé, veut pas, là, les conséquences, elle va les supporter pendant des années. T'sais. Et vous avez parfois remarqué chez les chrétiens que les chrétiens se plaignent des conséquences de leur péché. Ça vous est arrivé, ça? Peut-être nous-mêmes, nous sommes pleins des conséquences de notre péché. En disant, Seigneur, c'est trop dur pour moi, ces conséquences-là. T'sais. Mais David accepte la justice de Dieu suite à son péché. C'est quand même remarquable. Au verset 8a, David souligne que Dieu veut que la sincérité demeure au fond de son être. La sincérité ou la justice, la sagesse demeure au fond de son être. Et c'est ce que ce verset souligne. Le désir de Dieu, c'est que David soit sincère. Et quand on cache notre péché, comme David l'a fait pendant plusieurs mois, Bathsheba a eu le temps d'être enceinte et puis le bébé a eu le temps de grandir en son sein. David était loin de vivre la sincérité dans sa relation avec Dieu. Et David, évidemment, était loin de la sagesse que Dieu réclame. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et dans cette situation-là, David n'a pas craint l'Éternel. Alors voilà un petit peu les éléments fondamentaux qu'on retrouve quand on parle de repentance et qui sont importants si nous voulons évaluer la repentance d'un frère ou de la sœur ou si nous voulons aider quelqu'un à passer au travers de la repentance. Ces éléments sont vraiment fondamentaux. Ne nous faisons pas avoir par des réactions émotionnelles ou même des pleurs qui ne correspondent pas à une vraie repentance. Mais dans notre vie, c'est parfois la même chose. Nous aussi, nous réagissons émotionnellement sans vraiment refléter ces éléments fondamentaux qui caractérisent une vraie repentance. Deuxième partie du psaume, à partir du verset 9. David dit ceci, « Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. Ne considère plus mes péchés. Tous mes torts, efface-les. Ô Dieu, crée à moi un cœur pur, renouvelle à moi un esprit bien disposé, ne me renvoie pas loin de ta présence, ne me reprends pas ton esprit saint. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis et affermis-moi par ton esprit généreux. » Alors quand je lis ce passage, je pense toujours au chant de Keith Green. Est-ce que tu te rappelles de Keith Green? Hein, chanteur chrétien rock canadien, je pense, hein. Ouais, qui avait un ranch dans l'ouest du Canada. Et à un moment donné, il a décidé avec deux petits-enfants de prendre un petit avion pour faire le survol de sa propriété, prendre des photos. L'avion s'est écrasé, il est mort. Un jeune musicien, là, tu sais, il avait quatre jeunes enfants en bas âge. Et c'est un musicien qui a été très connu dans les années 80 parce qu'il a, au travers de sa musique, il a incité beaucoup de jeunes à partir en mission. Et il avait des chansons là-dessus, tu sais, « Go !»« Vas-y !» tu sais. Et cet homme-là écrit une chanson sur le verset 12. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Et David, dans ce passage, reflète les motivations de sa démarche, les motivations du pardon. Alors regardons un petit peu ce que sont les motivations du pardon. Premièrement, c'est que David ressent un besoin de pureté. Généralement, quand je vais à la salle de bain pour me laver les mains, c'est parce que je réalise que mes mains sont un petit peu sales. J'ai un besoin de pureté. Hein? Des fois, on se dit, oh, une bonne douche, là, ça va. On dirait que ça va me remettre d'aplomb. Là, je me sens moi-même, là, puis j'ai besoin d'une bonne douche. T'sais? Et il a besoin de pureté au verset 9. Purifie-moi du péché avec un rameau d'hysope qui était utilisé dans les, par les prêtres lors de leur quand ils officiaient là, et dit et je serai pur. Lave-moi, je serai plus blanc que la neige. Efface mes fautes. En quelque sorte, ça revient à son désir, à son cri du début du psaume. Efface mes fautes. L'ardoise là, j'ai envie, Seigneur, que tu l'effaces pour qu'elle redevienne nette. Qu'il n'y ait plus rien entre toi et moi. Le besoin de pureté. Est-ce que nous ressentons ce besoin de pureté? En fait, si je suis en communion avec un Dieu saint, une des conséquences, cela va être de désirer aussi cette sainteté. Et malheureusement, dans la vie de beaucoup de chrétiens aujourd'hui, que ce soit des jeunes ou des moins jeunes, nous avons vraiment un problème de pureté. Pas simplement dans la vie sexuelle, on parle toujours de la vie sexuelle, mais ça c'est juste un aspect, tu sais, mais de la pureté dans nos pensées, de la pureté dans nos actes, de la pureté dans les motivations qui nous poussent à agir. Nous avons besoin de pureté. Au verset 10, le psalmiste a aussi un autre besoin. Qui motive sa repentance. Et ce besoin, c'est un besoin de joie. Et ce n'est pas une joie superficielle. Hein. Ce n'est pas une joie qui peut être créée par un contexte. Tout à l'heure, on a chanté dans la joie, puis je trouve que c'est bien de chanter dans la joie. Mais la joie du Seigneur, elle va plus loin qu'une joie extérieure, comme celle qu'on a expérimentée tout à l'heure. T'sais. Elle va plus loin que cela. Et nous pouvons participer à des moments d'adoration, de louange, avec le cœur rempli de joie, mais ce n'est pas cette joie profonde qui vient de Dieu. Nous pouvons aussi participer à des moments de louange, où nous expérimentons cette joie, mais cette joie est vraiment une joie profonde. T'sais, il faut distinguer hein, le type de joie là, que l'on expérimente quand on est à l'église. Il faut distinguer ça. Et en fait, il n'y a personne qui peut voir qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur si ce n'est Dieu. Et ici, regardez au verset 10, il nous dit « Fais résonner à nouveau la joie et l'allégresse pour moi. » Donc, qui est à la source de notre joie? Ce n'est pas la qualité des musiciens. Ce n'est pas les chants préférés que nous aimons. Ce qui provoque la vraie joie, c'est celle que Dieu met dans notre cœur. Ce qui fait que même si le guitariste il brisait une de ses cordes en jouant, ben cette joie qui vient de Dieu demeurerait dans ton cœur. Elle ne dépendrait pas des circonstances. Et je me rappelle ce témoignage de ce pasteur qui partait en vacances dans un endroit assez retiré, puis il vient le dimanche matin, puis il se dit « Ouais, je suis en vacances, là, je ne sais pas si je devrais aller à l'église. » Mon église, elle est loin, puis je prends un congé. Puis dans mon église, on a des super musiciens. Tu sais. Le système de son est excellent. On a un système audiovisuel avec PowerPoint et tout. Ouais. Il y a de l'ambiance quand on va à l'église. Puis là, je sais qu'il y a une petite église pas loin, à une couple de kilomètres. Ça doit être poche, là, tu sais. Ils n'ont pas les musiciens que nous, on a. Puis, Seigneur, je suis en vacances. Et pourquoi je devrais aller à l'église, là, tu sais. Finalement, le Seigneur le pousse à aller à l'église, tu sais. Mais c'est vrai que la musique était poche. J'étais un petit groupe, il n'y avait pas beaucoup de ressources, pas beaucoup de musiciens. Et Dieu lui a parlé ce jour-là. Dieu a parlé en rapport avec ses motivations. Et il est sorti de cette rencontre du dimanche matin, alors que Dieu lui a parlé. Dieu lui a parlé dans une petite église. Une petite église sans beaucoup de ressources. Une petite église qui ne fait pas le poids d'un point de vue humain quand on la compare à d'autres communautés qui sont bénies de toutes sortes de ressources. Mais pourtant, Dieu a touché le cœur de cet homme-là. Et Dieu l'a touché dans ses motivations profondes. Quelle est la joie qui nous anime? Quand ma femme a quitté son église dans les années 70, elle était à Rock Forest, l'église baptiste de Rock Forest. Et à l'époque, dans les années 70, c'était l'église phare de l'association baptiste. Tu connais l'église de Rock Forest? T'as entendu parler? Ma femme l'a quittée dans les années 70 pour aller missionnaire au Nouveau-Brunswick. Elle est allée missionnaire au Nouveau-Brunswick dans une petite mission où il y avait deux pelés et un tondu. Ils étaient 9 le dimanche dans l'église. Mais je vous dis qu'elle a passé un an là. Et là, le Seigneur l'a remise en question dans ses motivations, la raison pour laquelle elle venait à l'église. À l'époque, à Rock Forest, ils faisaient des émissions de télévision. Elle faisait partie de la chorale qui chantait pendant les émissions de télévision. Puis là, elle s'en va comme missionnaire dans un coin perdu, dans une mission qui marchait à moitié, où elle a vécu toutes sortes de frustrations. Et là, le Seigneur a touché ses motivations. Quelles sont nos motivations? Est-ce que la joie qui m'anime, c'est la joie qui vient du Seigneur lui-même? En fait, Jésus l'a dit, quand il a envoyé ses disciples deux par deux, les 70, les disciples reviennent, disent, on a fait des choses extraordinaires, puis Satan est tombé du ciel, là, tu sais. Jésus dit, oui, c'est bien. Mais rappelez-vous que la source de votre joie n'est pas dans le succès de votre ministère, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre des cieux, ou c'est le livre de vie. Donc ici, David a besoin de la joie du Seigneur. C'est dommage parce que parfois notre joie, elle est souvent une joie toute humaine qui dépend des circonstances, et tant que les circonstances vont bien, on est joyeux dans le Seigneur. Et parfois, le Seigneur nous retire ces circonstances-là pour que nous puissions réaliser que cette joie, ce n'est pas celle qui vient de lui. Regardez l'expression au verset 10. « Les eaux que tu as broyées retrouveront la gaieté. » C'est fort comme expression. Hein. Quand on perd la joie du Seigneur, nous pouvons expérimenter cette souffrance que peut expérimenter quelqu'un dont les eaux sont broyées. Ne considère plus mes péchés. Au verset 11. Au verset 14, première partie. Rends-moi la joie du salut que tu accomplis. Alors j'espère que ce matin, la joie qui nous anime, c'est la joie du salut. En fait, David, non seulement il a besoin de pureté, il a besoin de joie, et c'est ce qui le pousse à la repentance, mais il a besoin de transformation. David a besoin de transformation. Est-ce que nous réalisons que nous avons besoin de transformation? Est-ce que nous réalisons que nous avons besoin d'un cœur bien disposé? Verset 12, « Renouvelle en moi un esprit bien disposé. » Est-ce que nous réalisons que nous avons besoin véritablement de la présence divine? Ne me renvoie pas loin de ta présence. Pendant des mois, David vivait loin de Dieu, coupé de la présence de Dieu, et il a souffert de ça. Le problème, c'est que parfois, nous souffrons de la présence, de l'absence de communion avec Dieu, puis nous essayons de la remplacer par des placebos. Tu sais. Puis nous pensons que c'est ça qui doit être le moteur de notre vie chrétienne. Non, c'est la présence de Dieu qui est le moteur de notre vie chrétienne. Est-ce que nous expérimentons cette présence? Et le verset 13b nous parle de la présence de son Saint-Esprit. L'apôtre Paul nous dit que nous pouvons attrister le Saint-Esprit, tu sais. Nous pouvons attrister le Saint-Esprit. Donc, nous venons de voir trois éléments fondamentaux des versets 3 à 8. Nous venons de voir les motivations de sa présence, versets 9 à 14. Et j'aimerais terminer assez rapidement sur les conséquences du pardon. Et les conséquences du pardon sont extrêmement importantes parce que, de façon positive, nous voyons les conséquences du pardon, mais de façon négative, si nous ne sommes pas pardonnés, il va y avoir des conséquences aussi dans notre vie. Donc on peut le regarder des deux côtés, tu sais. Le pardon entraîne l'action. Regardez au verset 15. Le pardon entraîne l'action. Alors, là Seigneur, je t'efface mes péchés là. Alors, je pourrai montrer à qui coupable le chemin que tu prescris, pour que les pécheurs reviennent à toi. Ô Dieu, toi le Dieu qui me libère, viens me délivrer du poids de mon crime. Alors, par mes chants, je proclamerai ta justice. Éternel, ouvre mes lèvres et je te louerai. Car tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Je t'aurai offert des holocaustes, mais tu n'y prends pas plaisir. Le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit humilié. Ô Dieu, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. Dans ta bonté, fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi. Holocauste et offrande total, et l'on offrira des taureaux sur ton autel. Alors, le pardon entraîne l'action. Vous voyez le petit mot « alors » ? Il y a plein de petits mots dans les textes hein, qui sont importants, là, qui établissent les rapports avec ce qui précède, ce qui suit, etc. Alors, je pourrai montrer le chemin. Alors, il y a trois autres actions là, dans lesquelles David veut s'engager suite à son pardon. C'est montrer le chemin. Au verset 16, c'est 16, la deuxième partie, c'est proclamer la justice, proclamer le salut. Et verset 17, c'est « J'ouvrirai mes lèvres pour te louer ». Trois actions, montrer le chemin, proclamer le salut, louer l'Éternel. Et trop souvent, nous agissons dans ces trois domaines, alors qu'en premier, nous aurions besoin d'être pardonnés par Dieu. Parfois, nous mettons la charrue avant les bœufs. Nous prêchons l'Évangile alors que nous avons besoin d'un retour à Dieu pour être pardonnés. Nous voulons montrer le chemin alors que nous avons besoin de pardon de Dieu. Nous voulons louer l'Éternel alors que nous avons tout d'abord besoin du pardon de Dieu. Les conséquences du pardon, ce n'est pas seulement l'action, mais les conséquences du pardon, c'est que ça renouvelle notre être intérieur, versets 18 et 19. Tu ne désires pas que je t'offre un sacrifice. Seigneur, tu ne désires pas des actes extérieurs. Seigneur, tu ne désires pas mon service en premier lieu. Tu ne désires pas un rituel religieux en premier lieu. Si tu voulais des sacrifices, je t'en aurais donné. Mais qu'est-ce que tu veux, Seigneur ? Verset 18, verset 19, le seul sacrifice qui convienne à Dieu, c'est un esprit, dans la version que j'ai devant moi, humilié. Un esprit humilié. Vous savez ce que dit la Bible ? Pour t'élever, tu as besoin d'être humilié. Le Christ a été humilié pour être élevé. Et trop souvent, dans nos ministères respectifs, ce que nous voulons, c'est le succès. Nous voulons être élevés avant d'être humiliés. Et les serviteurs que Dieu emploie, ce sont des serviteurs que Dieu humilie. Et si Dieu me donne du succès dans mon ministère et qu'il veut m'utiliser comme un serviteur fidèle, productif pour lui, tôt ou tard, le Seigneur va m'humilier. C'est l'humiliation qui précède la gloire. Et tu ne peux pas apprendre certaines règles spirituelles si tu n'es pas d'abord humilié. Un esprit humilié. Verset 19b, tu n'écartes pas un cœur brisé et contrit. En fait, plus tu es humilié, plus tu es brisé, plus tu es contrit, plus grand les bras de Dieu s'ouvrent pour toi, parce que justement tu en as besoin. Dernier élément, les conséquences du pardon, ce sont les conséquences autour de soi, versets 20 et 21. Dans ta bonté, tu fais du bien à la ville de Sion et bâtis les murs de Jérusalem. David, c'est le leader. Si David vit dans le péché, croyez-vous que le peuple va être béni par Dieu ? Si les leaders vivent dans le péché, croyez-vous que les gens que nous servons vont être bénis par Dieu ? Mais si nous venons à Dieu et nous obtenons la repentance, la conséquence va affecter les gens qui nous entourent et le pardon reçu va amener la bénédiction sur notre entourage. Le péché affecte notre entourage. Nos péchés secrets que personne ne connaît affectent notre entourage. Mais le pardon, lui, amène la bénédiction sur mon entourage. Le pardon reçu amène aussi l'adoration de mon entourage. Regardez au verset 21, « Alors tu prendras plaisir à des sacrifices qui sont conformes à la loi. » Peut-être les siens, oui, mais peut-être aussi les sacrifices du peuple. Hein. « Et l'on offrira des taureaux sur ton autel. » Moi, je m'appellerai toujours ma conversion, puis je vais terminer avec ça. En fait, c'est ma conversion parce que c'est mon expérience, mais en fait, c'est Dieu qui m'a sauvé. Je n'ai pas fait un privilège en venant à lui, tu sais, comme s'il avait besoin d'un privilège. Mais j'ai cherché le Seigneur pendant 3 ans, de l'âge de 12 ans à 15 ans. Et quand dans des groupes de jeunes, on faisait des appels, je disais à Dieu, je te donne ma vie, je te donne ma vie. 2-3 jours après, je savais que je n'étais pas sauvé. Je ne comprenais pas. On avait des appels, je répondais à l'appel, puis 2 jours après, je n'étais pas sauvé. J'étais sûr, au fond de mon cœur, là, convaincu que je n'étais pas sauvé. Puis je disais, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour être sauvé ? Je réponds à ton appel, là, dans les réunions, et puis je ne suis pas sauvé. Un jour, j'étais en Suisse, là, pendant les vacances avec mes parents, puis il y avait des réunions. Puis le prédicateur, il a fait un appel. Vous savez, quand Dieu appelle, ce n'est pas la même chose quand moi, je vais aller vers lui. Là, je savais que Dieu m'appelait. Et là, j'étais assis dans des rangées qui étaient longues. Là, c'était pas 4 ou 5, c'était long, peut-être 10, 15, 20 personnes. Puis mon meilleur ami était assis au bout. Lui, il s'est levé, il est allé devant. Moi, j'étais assis en plein milieu. Puis je me disais, il faut que j'aille devant, je sens l'appel de Dieu, il faut que j'aille devant. Et alors, mais je vais déranger tout le monde, tu sais. Puis je ne suis pas allé devant. Je ne suis pas allé devant. Mais là, je sentais que Dieu m'appelait, tu sais. Ce n'était pas comme les autres fois où moi je voulais. Là, c'était vraiment Dieu qui m'appelait, tu sais. Puis je suis sorti de la réunion, mais découragé, complètement, là, parce que je me suis dit, je viens de rater l'appel de Dieu. Puis j'attends mon ami dehors, il s'appelait André, puis André, il sort, il y avait 3-4 marches. Il saute les 4 marches, je ne les ai même pas vues, tu sais. Il était tellement content. Et plus il était content, plus moi j'étais désespéré. Alors on était tous dans des dortoirs, là les gars étaient dans des dortoirs, puis c'était 11h, minuit soir, puis tout le monde s'amusait les gars ensemble. Puis mon ami vient me voir, moi j'avais pas le goût de m'amuser. T'sais. Puis je suis sorti tout seul dans la forêt et j'ai supplié Dieu. J'ai dit à Dieu, Dieu, sauve-moi. J'ai dit, Dieu, j'ai besoin de ton salut. J'ai dit, Dieu, je peux pas me sauver moi-même. Même si j'ai le désir de venir vers toi, ce n'est pas moi qui peux opérer la régénération dans ma vie. Il faut que tu fasses quelque chose, Seigneur. Je l'ai supplié, je ne sais pas combien de temps. J'ai demandé pardon pour mes péchés. Jusqu'au moment où j'ai senti que Dieu avait répondu. Et depuis ce jour-là, grâce à Dieu, c'est pas grâce à moi, là, mais j'ai eu la conviction, et je n'ai jamais perdu la conviction que Dieu m'a sauvé. Ce n'est pas moi qui m'ai donné à lui, en premier, bien sûr, on peut parler théologie, là. Mais je suis convaincu que c'est Dieu qui a fait cette œuvre en moi. Et ça, ça vient par la repentance. Quand Dieu efface notre péché, nous sommes convaincus de son action dans notre vie. Quelle est votre relation avec Dieu? Est-ce que vous avez expérimenté ce regret? Est-ce que vous êtes repenti devant Dieu vraiment là? Est-ce que vous avez bénéficié de ce pardon de Dieu? Et de la grandeur de la grâce de Dieu. Le fardeau que tu tires derrière toi, ou que tu tirais derrière toi, est-ce qu'il était vraiment lourd? Ou est-ce que c'était un petit fardeau pas très très important, puis tu es venu à Dieu, puis ouais, finalement tu es chrétien, c'est le fun, tu as une bonne assurance éternelle, mais ça n'a pas trop changé grand-chose à ta vie, tu sais. Ou est-ce que tu as réellement compris que ton péché, c'est un boulet, et que tu as besoin que Dieu intervienne pour qu'il coupe la corde qui te relie à tout ce filet rempli de ce qui symbolise ton ancienne vie et te libère de cette ancienne vie. Prions ensemble. Ô Dieu, merci pour ce magnifique psaume. Merci pour la repentance de David. Merci parce que David reste un grand roi, pas parce qu'il a battu des ennemis, mais parce qu'il avait un cœur selon toi. Et un cœur selon toi passe par la repentance. Seigneur, peut-être que dans notre vie, tout va trop bien. Tout va peut-être trop bien, Seigneur. Et peut-être que nous avons besoin de passer par la repentance. Peut-être que nous avons besoin que tu nous montres notre péché. Et ce matin, nous oserions te faire cette prière. Seigneur, montre-moi l'ampleur de mon péché. Pas pour m'écraser, mais pour que je puisse comprendre la laideur du péché. En tous les cas, que je puisse la comprendre un peu plus. Parce que si je la comprenais vraiment, peut-être que je serais complètement écrasé. Et puis que je puisse comprendre davantage la grandeur de ton pardon. Parce que plus je comprends la grandeur de ton pardon, plus je comprends la grandeur, la profondeur, la hauteur, la largeur de l'amour que tu as pour nous en Jésus-Christ. Touche-nous, Seigneur. Amen.